Jeudi, les amis, donc sortie de boîte ce soir.
Oui, avec l'entreprise Atokalpa, spécialiste en microtechnique, on va faire le tour du propriétaire, un petit tour. On n'a pas le temps de faire toute la boîte. Mais ça, c'est dans quelques secondes. Et ça compte en horlogerie.
Et après s'être envolé dans l'espace avec la sonde Cassini, on va écrire nos vies à 8h40.
Exactement, avec les ateliers d'écriture Ma vie, ma saga, des ateliers proposés par Florence Hugui. On va découvrir en quoi ça consiste, comment c'est vécu par un des participants. Florence Hugui et ce participant, Denis Perrin, seront avec nous tout à l'heure.
Bienvenue dans Format 3. Format 3, c'est jusqu'à 9h.
Joël, Nadia et Jean-Michel, Format 3.
Mais comme chaque jeudi, on commence par parler économie, savoir-faire de l'arc jurassien à l'enseigne de sortie de boîte. On va se plonger dans le cœur de la fabrication d'un mouvement de montre afin de découvrir le travail de l'entreprise Atokalpa à Halle.
Spécialisée dans les roulages et les oscillateurs, Atokalpa est une entreprise de microtechnique située à Halle, dans le canton du Jura, qui fait vivre 115 employés.
Nous découvrons une petite partie de l'entreprise, là où se réalise le montage du fameux ressort spirale et du balancier, un travail minutieux qui se mesure en microns. Notre guide est Fausto Berizzi, chef de production chez Atokalpa.
Peut-être deux ateliers où rapidement, très rapidement, la fabrication des balanciers est comme une particularité, ça va durer peu de temps, parce que ça va intéresser.
On fabrique carrément les serres de balancier de façon automatique. Donc il faut simplement dire aussi une chose, c'est qu'on arrive ici à usiner alors de 2 microns au niveau des épaisseurs pour garantir une inertie acceptable quand on va les faire avec les spiraux derrière.
On est déjà sur le spiral, c'est l'autre partie de l'oscillateur. Ici, on vient faire, on fait la coupe extérieure. Voilà. C'est-à-dire que le spiral est déjà soudé sur une virole et on fait une coupe extérieure pour avoir les performances voulues, la dimension voulue du spiral.
Le diamètre du spiral.
De 6 mm, allez, grosso modo, peut-être 10 mm. Mais j'attends, le fil, il faut juste savoir qu'on part, on ira peut-être voir après, mais on part sur du fil, avant de laminer, il fait 6 dixièmes, et on arrive à le tréfiler en rond jusqu'à 5 centièmes. Donc c'est vraiment plus petit qu'un cheveu. Un cheveu, ça fait 6 centièmes.
On se rend compte qu'il y a ici de la haute technologie créer ces mouvements. Mais que la main, que l'humain est très important dans ce travail.
C'est indispensable. C'est vraiment la formation, c'est, je dirais, le personnel qui manipule ça, c'est la dextérité à l'état pur. Quoi. Je dirais, vous voyez, je pose la question. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, mais je prends un spiral comme ça, je l'esquinte. C'est important. La manipulation est très très importante, la formation est très très importante. Voilà. Pour la petite histoire, c'est-à-dire que là, on a en général du fil qui est tréfilé environ 6 dixièmes. C'est toujours la même matière, c'est une matière qui a été validée, c'est une coulée qui nous appartient, on a acheté X kilos de matière. Mais j'attends.
La matière, on n'en parle pas, c'est un secret de fabrication.
Pas vraiment, j'attends, c'est du. Il y a quand même quelques petits secrets, je dois dire. Oui, je veux dire, c'est une matière un peu spécifique, on n'aime pas trop s'étaler dessus.
Mais c'est métallique.
C'est métallique. C'est métallique. On a notre matière, et puis, comment dire, là-dessus, on part en 6 dixièmes. Et puis, en fonction des calculs qui sont faits au bureau technique, on doit amener ce fil de 6 dixièmes à un diamètre compris entre 5 et 5 et 7 centièmes. Mm-hmm. Et donc ça fait le nombre de passages dans des filières, 10, 20, 30 passages, pour arriver à un fil qui a un diamètre voulu. Mm-hmm. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tréfilage.
Un fil métallique qui est à peu près le diamètre d'un cheveu, un peu plus petit.
Entre 5 et 7 centièmes. Un cheveu, enfin les miens, ils font 6 centièmes. Donc d'accord. Voilà, c'est exactement la taille d'un cheveu.
L'assemblage des spirales et des balanciers.
Exactement.
Là, on est au cœur de la montre.
Voilà. Il y a quelqu'un d'homme ? Donc là, voilà. Donc c'est le cas, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Dominique, c'est le chef d'atelier. Voilà. Ça fait déjà un moment qu'il est chez nous aussi, lui.
Ouais, ça fait une dizaine d'années presque.
D'accord. Ouais.
Donc ici, on a des balanciers équilibrés classés
et là, en face, on a des spiraux classés. Et là-dessus, on va les assembler avec, par rapport à une position précise. Donc, tu peux juste nous...
Je vais montrer, je vais juste chercher les bricelles qu'il faut. Voilà, donc ici, on assemble les spiraux sur le balancier. Donc, on a bien les... On a classé auparavant les balanciers et les spiraux. Donc, la première étape, c'est de placer notre spirale sur notre posage, ici. On a une petite aspiration. Et là, on vient détecter le bout de notre spirale, la petite flèche bleue qui nous l'indique. Ensuite, on met notre balancier sur le posage prévu pour les balanciers qui se trouvent ici. Et la machine vient capter le bout du spirale. Donc après, on a une table rotative ici qui va venir tourner par rapport à l'orientation du spirale sur le posage. Donc quand je vais presser, ça va aller assez vite. Elle va tourner et après, notre posage ici va venir dessous. Cette potence ici va descendre, venir prendre le spirale et ensuite remonter pour que celle-ci reparte en arrière. Et après, elle va descendre pour venir chasser sur le balancier. Donc ça va aller assez vite, mais... Donc là, voilà, on a un mobile fini. Il manque plus que la courbe et puis la mettre dans la montre. Et puis... C'est les dernières étapes. Voilà.
Là, on a monté le cœur de la montre.
Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Si on a bien fait notre travail, la montre va bien aller avec ces deux trucs.
À Tocalpa, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Sortie de boîte. Sortie de boîte qui reçoit Sébastien Jeanneret, le directeur d'Atocalpa. Rendez-vous dès 18h35.
Format A3.
Et ce matin, Jean-Michel, vous nous emmenez dans l'espace.
Oui, ça change, moi qui suis dans la Lune. Hein. J'aime bien la découverte de notre univers et de la galaxie, même si je ne suis pas un grand spécialiste et même si j'ai l'impression que parfois on a assez de boulot sur notre planète bleue. Je trouve que la conquête de l'espace est tout simplement fascinante.
Et aujourd'hui, c'est une histoire de sonde.
Oui, la sonde américaine Cassini, qui est en orbite depuis 2004, depuis 13 ans donc, elle tourne autour de Saturne. Et sa cible est désormais la zone entre les deux anneaux de la planète.
Et elle nous apprend quoi, cette sonde Cassini?
Eh bien, durant sa longue mission autour de Saturne, Cassini a permis de faire d'importantes découvertes comme l'existence d'un vaste océan sous la surface glacée de la Lune Encéladus, ainsi que des mers de méthane liquide sur Titan, une autre lune de Saturne. Hein, c'est quand même pas mal.
Méthane liquide.
Oui.
Ça veut dire que c'est des paix. Non, bref, rien.
Oh là là, la sonde
américaine. J'ai des images comme ça.
Oui, bah c'est bien. C'est ça, ce petit rire. La sonde américaine en orbite autour de Saturne se prépare à amorcer des manœuvres qui la feront plonger dans l'atmosphère de la planète gazeuse géante. Et la saturnissage. Je pensais que l'atterrissage, ça jouait pas. On asaturnise, non?
Bah, c'est j'imagine. Allunir, asaturniser, avénuser. Ouais. Aussi.
Oui, ça doit vous plaire. Oui, ça doit vous plaire tout partout. Et c'est prévu le 15 septembre, c'est ce que vient d'indiquer mardi la NASA. Mais la zone n'a pas encore été explorée, justement, cette zone sur laquelle on va asaturniser.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a sur cette sonde qui nous donne toutes ces informations?
Alors, elle est dotée de 12 instruments scientifiques qui permettent, on s'en doute, une foule de mesures. Et la sonde va effectuer le 26 avril la première descente dans l'espace de 2400 km qui sépare Saturne de ses anneaux.
Et là, on est dans un terrain vraiment peu exploité. Hein.
Oui, aucune sonde ne s'est jamais aventurée dans cette région unique que nous allons tenter de traverser 22 fois. C'est ce qu'a expliqué Thomas Zurbuchen, responsable adjoint de la direction des missions scientifique de la NASA, je ne sais pas pourquoi je le dis à la Suisse allemande, je ne sais pas s'il vient de Zurich, mais ce que nous allons apprendre de Cassini permettra de parfaire les compréhensions de la formation et de l'évolution des planètes géantes et des systèmes planétaires en général.
Et puis après ?
Et puis après, eh ben c'est un petit peu la fin des haricots parce que la sonde Cassini est à bout de souffle. 20 ans après son lancement et 13 ans d'exploitation du système saturnien, l'engin spatial n'a plus beaucoup de carburant, c'est ce que souligne la NASA. Et il fallait décider de la meilleure manière de terminer cette mission. Cassini va donc faire certaines de ses opérations les plus extraordinaires à la fin de sa longue vie. C'est ce que prédit Linda Spilker, qui est responsable scientifique de la mission au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. L'équipe scientifique espère ainsi obtenir des données précieuses sur la structure interne de Saturne à l'origine de ses anneaux. Les chercheurs comptent également obtenir des images inédites au plus près des nuages saturniens. C'est vrai que tout ça paraît parfois un petit peu compliqué. Moi, j'avais beaucoup plus de facilité avec Saturne. Vous vous souvenez,
le petit canard.
A3, c'est plus sympa. Format A3.
Laisser une trace à ses descendants, se confronter à la page blanche, c'est le principe des ateliers d'écriture intitulés « Ma vie, ma saga ».
Des ateliers animés par Florence Hugui, qu'on connaît notamment pour son activité de recueil de récits de vie. Elle est notre invitée ce matin avec l'un des participants à ces ateliers d'écriture.
Il s'appelle Denis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Florence Hugui, bonjour. Denis Perrin, qu'est-ce qui vous a amené à pousser la porte de cet atelier d'écriture ? Comment est-ce que vous y êtes entré la première fois ?
Eh bien, je suis enseignant-chercheur retraité de la HEPB Jeune depuis 3 mois à peu près. Et puis, une partie de ma vie a été consacrée à l'écriture scientifique plutôt. Et à ma retraite, depuis déjà de longues semaines, je rêve de passer à un autre genre. J'ai toujours rempli beaucoup de carnets. Et connaissant Florence, je me suis dit que c'était l'occasion de m'y remettre.
Donc l'angoisse de la page blanche, vous connaissiez déjà ?
Oh oui.
Florence, Guy, on avait parlé ici même des recueils de récits de vie. Ma vie, ma saga, est-ce qu'on peut dire que c'est une autre façon d'arriver au même but finalement ?
Oui, tout à fait. C'est une autre façon d'arriver au même but. Le but, ça reste de se raconter. Mais là, par contre, on propose aux personnes d'être actrices, d'être acteurs du processus et de se raconter directement, donc d'écrire et puis d'être guidée dans cette écriture, parce que c'est une démarche qui n'est pas forcément facile à mener seule. Et donc, l'idée de le travailler en groupe, c'est pour cette raison-là, en fait, que sont nés ces ateliers.
Florence, justement, les points communs et les différences fondamentales entre le recueil de récits et l'atelier d'écriture, ça se trouve à quel niveau ?
Je vais vous répondre avec un dialogue que j'ai eu il y a peu de temps avec une personne que je suis individuellement, qui me disait, pour moi, de faire recueillir ma vie, c'est plus paresseux que de l'écrire par moi-même. Et elle avait choisi, de se raconter par elle-même, donc d'écrire son histoire. Et puis elle a choisi d'être suivie pour le faire parce que c'est pas simple, comme je le disais tout à l'heure, de le faire soi-même. Et je crois que c'est la principale différence, en fait. C'est le fait de vouloir se lancer dans ce processus d'écriture, d'avoir envie d'écrire et peut-être de se donner l'autorisation d'écrire. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté avec ça parce que c'est peut-être angoissant ou inquiétant d'écrire. On se dit qu'on sait pas écrire parce qu'on a des vieux souvenirs d'école, alors qu'en fait tout le monde le sait et qu'il suffit de se donner la possibilité de le faire. Et puis avec toutes sortes d'exercices assez ludique, on peut entrer dans le processus.
Ça se passe en groupe, hein, vous l'avez dit, avec des gens comme Denis, qui sont des jeunes retraités, ou alors est-ce qu'on peut avoir envie de se raconter à 25 ans ?
Ben oui, on peut avoir envie de se raconter à 25 ans, tout à fait, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui mènent à l'écriture et puis à ce genre d'atelier. Dans l'atelier dans lequel se trouve Denis, les personnes ont de 40 à 80 ans, donc on a une palette très large de parcours de vie et de raisons d'être là. Même si ce que Denis disait tout à l'heure est important, c'est que les transitions de vie, l'arrivée à la retraite, le fait d'avoir vécu un deuil, par exemple, ou d'avoir traversé des moments délicats, font qu'on a peut-être envie de déposer une partie de sa vie pour pouvoir continuer. Et ça, c'est la même chose que dans le recueil de récits de vie. Ça peut être une des motivations qui mène à se raconter. Je crois qu'il y a cette motivation-là. Et puis l'autre, c'est de prendre du recul sur sa vie, en fait, et peut-être de la voir avec un autre regard ou de se donner la possibilité de prendre du large pour voir les choses différemment.
Alors justement, Denis Perrin, finalement, qu'est-ce qui a été la vraie motivation pour vous de participer à ces ateliers ? Est-ce que vous avez hésité au début à vous lancer ?
Non, pas du tout, surtout connaissant Florence, donc ça m'a incité tout de suite à m'inscrire à l'atelier. Au fond, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on se raconte effectivement à tout âge, mais de manière différente. Lorsqu'on est au travail et qu'on travaille, je sais pas, 10 heures par jour, on se raconte aussi dans son travail, même si on ne le fait pas directement. Effectivement, on dépose toujours à quelque part une partie de sa vie. Et là, le fait de l'écrire... nous permet peut-être, c'est mon cas en tous les cas, de comprendre au fond ce que l'on fait depuis qu'on est là. Je l'ai fait dans le cadre de mon travail, en accomplissant à peu près 20 ans d'université en parallèle avec mon travail, pour comprendre ce que je faisais au fond au quotidien. Et puis j'ai envie de poursuivre pour la dernière partie de ma vie, en fait c'est le dernier tiers-temps, et profiter de ce que je peux comprendre encore dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et cet atelier m'aide à m'y remettre. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement la peur de la page blanche, c'est juste peut-être la peur parfois de se dire simplement.
Denis Perrin, je crois que vous êtes un des seuls hommes à participer à cet atelier d'écriture. C'est quelque chose qui vous surprend ?
Pas nécessairement, puisque travaillant dans l'enseignement, j'ai travaillé la plupart du temps avec une majorité de femmes. Non, ça ne me surprend pas particulièrement. Est-ce que l'homme a plus peur de se découvrir, de s'explorer, je ne sais pas. C'est vrai que j'étais assez impressionné la première fois que je suis arrivé à l'atelier, mais mes partenaires sont vraiment très cool, quoi.
Florence, vous confirmez, majorité de femmes qui participent à ces ateliers.
Oui, c'est clair, une majorité de femmes qui participent aux ateliers d'écriture, qui sont dans cette démarche de réflexion sur soi aussi, puisque, comme le disait très justement Denis, ça fait partie de ce processus. Majorité de femmes, mais évidemment que les hommes sont les bienvenus, et c'est vrai qu'on on a accueilli Denis avec une grande joie de ce point de vue-là.
Ces ateliers d'écriture, comment ça se déroule une soirée ? Est-ce que y a des devoirs à faire d'une semaine à l'autre ? On va s'y intéresser dans un instant.
Jamais 203, format A3.
Ma vie, ma saga, ce sont des ateliers d'écriture qui se déroulent à Bienne et Neuchâtel.
Deux invités avec nous, Florence Hugui qui anime ces ateliers et l'un des participants, Denis Perrin.
Alors, le déroulement de ces ateliers, alors j'imagine, Florence, qu'on va travailler l'écriture. Vous avez découvert des talents d'auteur dans ces ateliers?
C'est difficile de le dire parce que la démarche, ce n'est pas de lire ou de partager ce qu'on écrit. La démarche, elle est plus de faire ce travail intérieur et de se donner la possibilité d'écrire ce qu'on a envie d'écrire sans forcément le partager avec les autres. On va plus travailler ou partager autour du processus lui-même dans le cadre des rencontres. Et ce que j'ai envie de dire encore sur la manière dont ça se déroule, c'est qu'il y a de l'écriture, bien sûr, mais moi je travaille avec une méthode qui s'appelle le journal créatif, et dans cette méthode-là, on y ajoute d'autres médiums que sont notamment le collage et la couleur et le dessin, des choses de ce genre-là, parce que ce sont des accès à l'inconscient ou des manières d'aller dans sa créativité de manière différente, et ça apporte d'autres pistes, d'autres visions en fait de son histoire, et donc les soirées se déroulent à travers ces différentes propositions.
On travaille aussi sur la mémoire, on doit faire le tri entre ce qu'il faut absolument conserver et ce qui est plus anecdotique.
Il y a parfois quelques scories, peut-être que c'est ce que vous sous-entendez. Une participante nous disait l'autre jour que quand elle s'était lancée dans l'atelier, c'était vraiment clairement pour écrire son histoire qu'elle avait l'intention de donner à ses petits-enfants dans une année, à la fin de l'atelier. Et puis, elle s'est vite rendue compte qu'au fond, c'était surtout une ouverture pour elle de déposer, d'écrire, de purger quelque part tout ce qu'il y avait en elle et qu'elle n'avait pas exprimé jusque-là. Et le fait de pouvoir le faire fait que dans ce cadre-là et au moment où on en est aujourd'hui, eh bien, elle préfère garder les choses pour elle parce qu'elle en est à ce stade de paix très personnel, de dialogue entre elle et elle-même finalement. Et avant de pouvoir transmettre des choses, il s'agit d'abord de déposer tout ce qu'il y a à dire. Puis de tout ce matériel-là, elle va pouvoir trier et sortir ce qui lui semble important à transmettre.
Denis Perrin, pour vous, cet atelier d'écriture, raconter votre vie, votre saga, c'est lever le voile un peu sur certains aspects de votre intimité, ou alors c'est raconter votre époque? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses?
Je crois qu'il y a un peu des deux. Au fond, j'ai l'impression que j'ai déjà laissé une trace de ma vie à mes enfants, sous la forme de la manière avec laquelle ils ont interprété mon parcours de vie. Maintenant, si je veux y retravailler, c'est pour peut-être faire le point sur ce parcours-là. Et lorsque je me mets à écrire, au fond, il n'y a pas vraiment de ligne. Il y a une première phrase, et puis les choses s'enchaînent. Et parfois, on passe de l'anecdote à quelque chose peut-être d'un petit peu plus philosophique. philosophique. Je retombe dans mes vieux travers scientifiques parfois, et puis j'essaie de les lâcher. Donc c'est pour l'instant, mais c'est peut-être parce que c'est trop frais encore. Ça fait 3 mois qu'on a commencé, et puis je n'ai pas vraiment de style particulier. Au fond, c'est écrire. Et ça, c'est déjà quelque chose, parce que chaque jour, on a 1000 raisons de fermer le cahier avant d'avoir posé la moindre trace.
Dans la finalité, avec le recul, ce que vous avez écrit, c'est ce que vous pensiez à la base lorsque vous avez débuté ces ateliers, ou est-ce qu'il y a eu des moments de surprise, des moments où tout d'un coup, vous avez ouvert des portes que vous n'aviez plus en tête ?
Oui, absolument, parce que la mémoire nous fait vite défaut. Et je crois, et là je pourrais qualifier Florence d'éveilleuse d'écriture, au fond. il suffit parfois d'une image. J'ai souvenir la dernière fois d'une clé, par exemple. Alors la clé ouvre des portes, mais elle ouvre des portes intérieures aussi. La grosse clé du Galta, où on se retrouvait avec son père dans les odeurs de papier moisi, etc. Et à partir de là, on part dans des cheminements qui ne sont pas des cheminements qu'on a prévus au départ.
Ces sagas, finalement, elles sont écrites pour qui ? Pour les héritiers ? Pour leur auteur ?
Alors oui, elles peuvent être tout à fait écrites pour les proches, pour les gens à qui on a envie de laisser une trace, pour les gens à qui on a envie de raconter son histoire, comme Denis vient de l'exprimer. Je crois que cette démarche aussi est une démarche de micro-histoire, c'est-à-dire qu'on laisse une trace personnelle, mais on laisse aussi une trace de l'époque dans laquelle on vit, dans laquelle on s'inscrit. Et je crois que ça permet de donner aussi une dimension qui est loin de l'égoïsme ou loin de la starification personnelle, parce que l'idée, c'est vraiment de laisser une trace d'un récit personnel qui dit quelque chose de l'époque, qui dit quelque chose du collectif. Et dans ce sens-là, ça revêt pour moi beaucoup de sens. Et je crois que pour les participants et participantes qui font partie de l'atelier, c'est pareil. Il y a aussi cette volonté de s'ouvrir aux autres à travers le travail intérieur qui peut être fait.
Denis Perrin, vous avez déjà trouvé le titre ?
Pas du tout. Pas du tout, parce que au fond, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ça. La seule chose que je sais, c'est que quand j'écris, mais ça, vous avez très certainement vécu ça lorsque vous étiez à l'école, je déteste que quelqu'un regarde par-dessus mon épaule. Et puis, donc, il y a quelque chose de très privé dans mes cahiers, dans mes carnets. Et je sais que si je devais écrire quelque chose, je devrais me réapproprier tout ça et réécrire tout ça, au fond, pour un destinataire. Pour l'instant, je crois, et Florence l'a bien dit, c'est un dialogue entre soi et soi-même, et en passant par la trace. Mais s'il fallait le transmettre à quelqu'un, je pense que ça ne peut pas se faire de manière brute. Après, bon, je ne sais pas si je brûlerai mes carnets ou si quelqu'un les trouvera dans 2 siècles et les étudiera, j'en sais rien du tout. C'est vraiment de l'écriture spontanée. Et parfois, elle saute du coq à l'âne, mais effectivement aussi, elle est assez le reflet d'une période. Lorsqu'on s'envoie sur des chemins de description, des terrains sur lesquels on a vécu, je crois que c'est pas seulement narcissique, c'est pas se poser soi-même, c'est poser au fond la vie et l'espace, les espaces que l'on a traversés.
Ma vie, ma saga, c'est le titre de ces ateliers d'écriture. Denis Perrin, Florence Hugui, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants ce matin avec nous. Et puis on mettra évidemment toutes les informations sur la page de Format A3 concernant ces ateliers et les prochains qui vont débuter en mai à Neuchâtel.
Oui, tout à fait, c'est ça, le 3 mai. Merci beaucoup.
Belle journée.
Merci, bonne journée.
Format A3 s'en va pour aujourd'hui. On vous retrouve demain à 8h10. À bientôt.
À demain.
A3, c'est plus sympa. Format A3.